cum accepiset Iesum ascetum dixit, consummatum est, et inclinato capite tradidit spiritum. Après qu'il ait pris le mélange d'acide qu'on lui a donné à boire sur la croix, le Seigneur dit consummatum est, c'est-à-dire tout est consommé, tout est accompli à la perfection. Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête du très précieux sang de notre divin Sauveur est une manifestation sublime de l'amour de Dieu et de la charité divine. Notre divin Maître nous a enseigné que il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Or, il y a différentes manières de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Par exemple, l'échange de consentement entre les époux qui se donnent l'un à l'autre, c'est normalement la preuve de l'amour particulier qu'ils ont et qu'ils ont l'intention de garder jusqu'à leur mort. La autre façon de donner sa vie, le dévouement d'une mère qui, tous les jours, donne le meilleur d'elle-même pour ses enfants, pour les nourrir, pour les former, pour les corriger quand il faut, pour les protéger. Autre preuve d'amour semblable, celle du Père, qui fait des jours de travaux rudes pour gagner la vie de toute la famille et qui donne non pas la sueur de son sang, mais la sueur de son front. Et c'est une manière d'ailleurs de réparer, puisque après le péché originel, une des manières que Dieu a données pour réparer, c'est « tu répareras en travaillant à la sueur de ton front ». Si quelqu'un voit un autre se noyer dans une rivière et qui prend le risque de plonger pour aller il offre sa vie, bon, il peut très bien ramener celui qui était tombé à l'eau et être sain et sauf. Il peut arriver aussi que, après l'avoir porté sur la rive et confié à d'autres, lui-même soit emporté par les flots. Donc voilà une autre manière de donner sa vie. Une autre façon, on le voit par exemple, le père Kolb, ils sont dans un camp de concentration, il y a eu une tentative d'évasion, si je ne me trompe pas, et donc il y a une répression, et ils choisissent plusieurs détenus pour faire peur à tout le monde, et ils les condamnent à mourir de faim dans un bunker. Et parmi ces hommes, il y a un père de famille qui supplie que on ne le condamne pas de cette façon, qu'il est attendu chez lui, etc. Et donc le père Kolb, touché de compassion, s'offre à sa place pour mourir de faim peu à peu dans ce bunker. Encore une magnifique preuve d'amour, et qu'il fait à la fois pour cet homme, et évidemment pour l'amour de Dieu, pour que l'amour ne soit pas seulement naturel, il faut aussi qu'il se réfère à l'amour de Dieu de façon à ce que ça devienne une véritable charité, car la charité, c'est pas seulement l'amour naturel, c'est la vertu surnaturelle d'aimer Dieu plus que tout, en lui-même et pour lui-même, et d'aimer notre prochain pour l'amour de Dieu. on voit des martyrs qui, imitant leur divin sauveur, leur chef, leur tête, qui a été le premier à verser son sang, qui ont eu des supplices atroces et qui ont été percés de tous les côtés, dans tous leurs membres, ils ont répandu du sang. Mais là où la proportion devient beaucoup plus grande, c'est que c'est le roi qui donne sa vie pour les serviteurs, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée qui donne sa vie pour des coupables. Et qui donne sa vie en étant saigné jusqu'à la dernière goutte. Cela avait été symbolisé pendant tout l'Ancien Testament, à la fois par tous les rites d'immolation de toutes sortes de bêtes, mais particulièrement par l'immolation de l'agneau pascal, donc le jour de Pâques. On prenait donc un agneau d'un an. Il était attaché sur un bois en forme de croix. On attachait les pattes de devant sur les côtés, les pattes de derrière en bas, de façon à pouvoir, pour faire cuire le michoui, n'est-ce pas, à pouvoir faire retourner sur la braise et que le poitrail et tout ça cuise. Et avant de le faire, il était saigné vivant. Cachère, comme ils disent dans leur rite. Et donc, saigné vivant. Or, qu'est-ce qu'il arrive à notre Seigneur sur la croix? Il est saigné vivant. Alors, il n'est pas saigné avant d'avoir rendu son âme. Alors, il est saigné, oui, vivant, parce que il a la couronne d'épines, et donc il y a tout le sang qui découle de la tête, et mon Dieu, les maux de la tête, c'est certainement parmi les pires. Il a tout son corps qui est encore meurtri des coups qu'il a reçus pendant la flagellation, donc les bras, la poitrine, le dos, y compris les jambes, etc., qui sont lacérés de coups, jusqu'à ouvrir des sillons dans son corps, et puis à déchirer des chairs qui tombent comme en lambeaux. Et le prophète Isaïe, voyant cela à l'avance, disait: je l'ai vu, il était comme un maudit, quoi, frappé comme un lépreux. Pourquoi comme un lépreux? Parce que les lépreux, quand la chair pourrit, ça fait, il y a des lambeaux de peau qui tombent, et donc celui qui est frappé et lacéré de coups, etc., si les bourreaux continuent, eh bien, au fur et à mesure, ça fait plus seulement des sillons dans le corps, tout rougi, mais ça finit par faire tomber des lambeaux de peau. Et puis, notre Seigneur a voulu faire exactement comme pour l'agneau pascal. Il est mis sur le bois d'une croix, et on l'attache, mais on l'attache pas avec des clous. Donc il a les mains percées, les pieds percés, et il dit lui-même: Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Alors, on pourrait imaginer que c'est comme un cri de désespoir, ou c'est simplement, bien que Dieu l'ait comme abandonné, puisqu'il s'est fait comme péché pour nous, pour racheter à notre place, c'est l'intonation du psaume 21. Et le psaume 21, il décrit la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os parce que étendu, etc. Eh bien, on voyait la forme des côtes, etc. Et ils ont partagé mes vêtements et tiré au sort ma tunique. C'était en train de se faire. Donc, notre Seigneur a donc à réciter le psaume 21 sur la croix. Et là, il l'a entamé publiquement pour faire comprendre qu'il ne faisait que réaliser tout ce qui avait été annoncé, dans tous les détails. Et il a pris le luxe, si on peut dire, pour montrer que c'était entièrement volontaire et que rien ne lui échappait, c'est qu'il s'est fait fêter 5 jours avant la Pâque, c'est-à-dire le jour où les Hébreux faisaient rentrer l'agneau pascal dans leur famille en le fêtant, les petits-enfants le fêtaient, 5 jours avant qu'il soit immolé. Et les rameaux, le dimanche des palmes, c'est 5 jours avant. C'est-à-dire au moment même où les enfants faisaient rentrer fêter l'agneau qu'on faisait rentrer dans les familles qu'on allait immoler, notre Seigneur s'est fait acclamer en rentrant dans Jérusalem. Et il a permis que le jour même où il y avait l'immolation de l'agneau, il soit lui-même immolé. Donc, si ceux qui ont le livre de l'Ancien Testament et qui ont même pratiqué dans leurs ancêtres tous ces rites-là ne voient pas ce que ça représentait et ce que ça annonçait et comment notre Seigneur l'a accompli d'une façon parfaite, c'est de l'aveuglement volontaire. Et comment imaginer une preuve plus grande d'amour? Comment voulez-vous que notre Seigneur nous montre plus? Et c'est lui qui est le Créateur, qui a tout fait. C'est lui qui a formé notre âme. Les parents s'unissent, mais ils peuvent s'unir 10 fois. S'il n'y a pas la fécondité, eh bien, il y aura pas de fruits, il n'y aura pas d'enfants. Bon. Et en plus, ce n'est pas eux qui vont choisir si ça va être un garçon, si ça va être une fille, s'il va avoir telle couleur de cheveux, telle couleur d'yeux, etc. Tel quota d'intelligence, parfois bien plus grande que celle de ses parents, etc., etc. Tout ça, ce sont des dons qui sont faits directement par Dieu. Donc tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, ça vient de Dieu. C'est déjà des preuves d'amour auxquelles on ne pense pas, mais qui sont multipliées. Mais comme tout ce qui est commun, eh bien, justement parce que c'est commun, on n'y pense même pas. Alors, c'est pour ça que Dieu aussi a voulu naître dans une crèche, hein, pour nous montrer, voyez, jusqu'à quel point je m'abaisse. Personne n'est né au bord d'une route, au fond d'une grotte, en plein hiver, bon, etc. Il a mené une vie de mendiant pendant toute sa vie publique, 3 ans et demi. Il a mené une vie humble d'artisan, etc., à Nazareth. Il a été le grand prédicateur pendant sa vie publique. Et puis, eh bien, il y a cette immolation sublime. Comment voulez-vous qu'il nous donne une plus grande preuve d'amour? Sic nos amantem quis non redamet, dit un cantique. Celui qui nous a aimés de telle façon, quel est l'ingrat qui ne l'aimera pas en retour? Surtout qu'il le fait pour des pécheurs, pour des gens qui ne pensent pas à lui, ou parfois même qui vont jusqu'à le mépriser, et qui ne comprennent rien à cette sublimité des abaissements de notre divin Sauveur. Et cela, c'est, on peut dire, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. On peut dire ça, c'est ce que le divin Sauveur, la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée, ne pouvait pas donner une plus grande preuve d'amour en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Par contre, Dieu nous en donne une encore plus grande, outre tout ce que je viens de rappeler, tes dons, la création et tout le reste, puisqu'il appelle ceux qui répondront à son amour à la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est une participation à la propre vie d'amour de Dieu. Dieu est charité, c'est l'amour entre le Père et le Fils, et qui est substantiellement le Saint-Esprit. C'est cet amour qui est diffusif et tout ça, cette bonté qui se répand, qui est à l'origine de la création et de tous les autres dons que Dieu nous a faits. Et il nous appelle même à participer à sa propre vie. Et donc, dans un certain sens, en partie, nous sommes comme des enfants adoptifs de Dieu et autres. Voilà, des preuves d'amour, on ne peut plus grande et on ne peut plus sublime. Et donc, voilà ce que nous rappelle cette fête du très précieux sang. Eh bien, demandons à Notre-Dame qui participait à tous ces dons de Dieu, qui était sur le bord du chemin de croix à Jérusalem. C'est la quatrième station. On tourne de la rue qui vient de Sidi Myriam, ça s'appelle, on l'appelle de différentes façons. On tourne et là, il y a un petit oratoire qui est l'oratoire du spasme de Marie. C'est là que Notre-Dame attendait avec Saint Jean auprès d'elle et qui a eu cet échange de regards entre notre Seigneur portant sa croix, tout maculé de sang sur son visage, puisque ça coulait de la couronne d'épines, tout maculé de sang sur ses bras, tout maculé de sang sur tout son corps qui avait été flagellé, etc. Et donc, quand Notre-Dame l'a vu ainsi de tout près, ça a été une telle douleur qu'elle en a eu un malaise. Et donc, elle n'en est pas restée là. Dès qu'elle a repris ses sens, elle a suivi le chemin de croix jusqu'au bout et elle s'est tenue debout, cette fois-ci, debout au pied de la croix pour soutenir son divin Fils et en quelque sorte pour l'offrir spirituellement comme le Père l'offrait. Et dernière image, parce que là on parle de l'amour de la deuxième personne de la Sainte Trinité, on a aussi l'image de, pour comprendre l'amour de Dieu le Père, c'est, il est demandé à Abraham d'immoler son fils, et c'est pareil, Isaac porte le bois sur lequel il va être accroché, il dit à son père, mais on va faire un sacrifice, mais où est la victime? T'inquiète pas, Dieu va y pourvoir. Bon. Et au moment où ils arrivent au mont Moria, c'est l'endroit où a été bâti après le temple de Jérusalem, et le Saint des Saints est à l'endroit même où notre Seigneur, Abraham allait immoler son fils sur la demande de Dieu. Et arrivé là-haut, mon fils, c'est toi que je dois immoler. Oh, imaginez. Il avait 30 ans, comme nous disent les pères. S'il avait voulu bousculer son vieux père et puis pas se laisser faire, il pouvait le faire facilement. Il a accepté, puisque c'était... Il a accepté de il a aidé son père à faire quelque chose de solide pour pouvoir l'attacher dessus. Il s'est laissé attacher et au moment où Isaac prenait le couteau pour l'immoler, hop, il a été arrêté et l'ange l'a inspiré pour lui dire « Retourne-toi, regarde, il y a un bélier qui avait les cornes prises dans un buisson d'épines, tu vas immoler le bélier à la place. Et ça, c'est le symbole de tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui était la préparation de l'immolation du vrai Isaac. Donc, il a vraiment immolé son fils en esprit. C'est Dieu qui l'a arrêté pour pas que ça aille plus loin. Mais le père, lui, il n'a pas arrêté la main des bourreaux. Ça a été jusqu'au bout. Donc, vous voyez, c'est cet amour sublime de Dieu le Père aussi, qui a permis ce sacrifice de son fils. Eh bien, devant cet amour sublime, demandons à Notre-Dame, nous aussi, de participer et à sa compassion et surtout de comprendre à quel prix, jusqu'à la dernière goutte du sang de notre Seigneur, à quel prix on a été racheté, et de rendre à Dieu amour pour amour, de façon à ce que nous puissions lui rendre grâce ensuite dans l'éternité, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.